Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Postscriptum. Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
Allez-y, on prend l'air et on y va.
Sage-femme. Donc, il a évolué. On a plutôt parlé de maïotique, maïoticien, maïoticienne, l'art d'accoucher. Hein, parce qu'il y a des hommes, en fait, qui sont sages-femmes. On sage, c'est dans le sens du savoir, de la connaissance de la maïotique, de l'art d'accoucher. C'est dans ce sens-là, sage-femme.
Vas-y. Il faut le prendre où aussi ?
Sous les épaules.
Vas-y, prends sous les épaules.
Voilà. Tirez pas trop, parce qu'il y a le cordon.
L'accouchement était le moment le plus fort et le plus intense dans ma vie. À tel point qu'à peine terminé, j'avais déjà envie de recommencer pour revivre ces sensations. C'est des sensations tellement intenses, tellement puissantes, que je ne voulais pas les vivre qu'une fois.
Enfin, ouais, bah, et bah, c'est bien, c'était très vite.
Chère sage-femme,
chère future maman,
chère future maman,
chère sage-femme.
Ce sont des inconnus qui partagent un des moments les plus forts de notre vie. Les sages-femmes quittent notre existence aussi vite qu'elles y sont entrées. Des années après, il reste dans nos souvenirs un visage bienveillant, mais flou, une voix encourageante dans le lointain. Des anges en blouse rose, payés 1 400 € et qui trouvent encore le moyen de s'émerveiller après une garde de 12 heures. C'est à elles que nous avons eu envie de rendre hommage dans cet épisode, en donnant la parole à Christelle, Juliette et Éléonore, trois jeunes mamans qui nous racontent leurs accouchements, et à Martine, sage-femme en maternité. Un dialogue qui existe rarement dans la vraie vie, car une fois le nouveau-né dans nos bras, on est happé dans un tel tourbillon qu'on ne prend même parfois pas le temps de dire un simple « merci ».
Lettre sonore numéro 46. Chère future maman.
Alors moi c'est Juliette, j'ai 33 ans, je vis à Colombes et j'ai accouché à Louis Morier, l'hôpital de Colombes, il y a 5 ans, d'un petit garçon. Je suis tombée enceinte, j'avais 27 ans et c'était une surprise et on était trop heureux en fait. En fait on n'était absolument pas prêts et on l'avait pas du tout imaginé, on l'avait pas du tout fantasmé et en fait c'était juste incroyable. Ça faisait 9 ans qu'on vivait ensemble aussi, on s'est mis en couple et habité ensemble très tôt. J'ai appris que j'étais enceinte 5 jours après avoir pris mon nouveau poste. J'ai voulu être honnête et l'annoncer en fait à 1 mois de grossesse. Et lorsque je l'ai annoncé, mon boss m'a dit « Et j'imagine que vous allez le garder ?» Je crois que c'est le truc le plus horrible qu'on m'ait dit. Et il attendait une réponse, bien sûr. Et voilà, je lui ai dit « Je ne viens pas demander une autorisation, ça semble... » Personne, en plus, absolument personne sur Terre ne pourrait me dire « Tu gardes ou tu gardes pas ton enfant, en fait ?» À partir de là, je me suis mise dans une bulle avec mon bébé en me disant juste « il n'y a que moi qui peux le protéger en fait ». Et m'ont renouvelé ma période d'essai en m'expliquant que je faisais du très bon travail. Mais comme j'étais enceinte, il fallait me renouveler ma période d'essai.
Je suis Martine Vervaec, je suis sage-femme à la maternité Louis Mourier de Colombes depuis 30 ans. Moi, j'ai eu un petit frère quand j'avais l'âge de 16 ans. Et donc, j'ai découvert un peu la femme enceinte à travers ma maman qui attendait donc mon petit frère. Je me rappelle très bien le bébé qui bougeait dans le ventre. Et c'est vraiment impressionnant quand même, hein, quand on est enfant, enfin adolescente, mais quand même de voir ça, en fait, de comprendre ça de façon très proche, puisque c'est le futur petit. D'ailleurs, on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille. Et puis parce que c'est sa maman, et puis parce qu'on est femme aussi, que voilà, un jour on y passera aussi. Et donc, je m'orientais un petit peu, parce que c'est à 16 ans, un peu le choix déjà de savoir un peu dans quelle section on allait aller, quel bac on allait faire, ça orientait un peu le métier derrière. Et donc, du coup, je voulais faire de la médecine parce que ça me plaisait. Et quand mon petit frère est né, j'ai trouvé ça très, 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 très magique. Et bah, ma maman m'a dit, bah, écoute, ça serait très bien le métier de sage-femme, parce que moi, voilà, j'étais accouchée par une sage-femme pour la première fois. Donc, elle a découvert le métier, elle m'a dit, je te verrai très bien.
Donc, on mesure la hauteur du ventre pour voir si le bébé grossit toujours bien, si c'est harmonieux, ce qui est toujours le cas, il n'y a pas de souci. D'accord. Chaque mois, on mesure la hauteur du ventre, ce qui permet de voir que tout...
Alors, la première année, on est tout de suite en stage, en fait. On a des cours le matin et l'après-midi, on est sur des stages que de maternité. On ne commence que la salle d'accouchement l'été, entre la première et la deuxième année. Et c'est là que je vois mon premier accouchement, en fait. Et donc, moi, j'étais là pour accueillir le bébé. C'est-à-dire qu'on avait un drap chaud qu'on mettait sur nos mains. Et quand la sage-femme de plus diplômée que nous, en plus haute en années d'études, sortait le bébé, hein, faisait l'accouchement, nous, on devait glisser nos mains pour accueillir le bébé dans ce champ tout chaud et l'accompagner dans les bras de la maman après. Voilà, c'est ça notre rôle. On a très peur de mal faire, de le laisser tomber. On s'attend à rien. Est-ce que c'est lourd? Est-ce qu'il faut le tenir comme ça? Et moi, je me rappelle que je me suis fait engueuler parce qu'elle me parlait, mais la sage-femme, mais j'entendais rien, en fait. J'étais sidérée de ce qui se passait. Dans le bon sens, hein, mais... Voilà. Le premier accouchement.
Mon Robin, mon fils, mon amour. Envie de te raconter ta venue au monde. Je t'ai tant désiré. Bien avant ta conception, tu étais déjà dans mon cœur. 8 mois, je t'ai porté. Plus tu prenais de place dans mon ventre, plus mon cœur grossissait et se remplissait d'amour. Chaque jour était une joie de sentir tes mouvements. Voir bouger mon ventre était magique. Je n'étais pas pressée de t'accoucher. Je profitais de chaque instant avec toi. Et je n'ai pas eu le temps de m'impatienter car tu as choisi de venir nous rencontrer avant l'heure. Tu étais pressée de sortir. Et moi, ben... pas tout à fait prête à t'accueillir. Je pensais avoir encore un peu de temps. Mais tu en as décidé autrement. J'ai toujours dit que tu viendrais quand tu l'aurais choisi.
En fait, pendant ma grossesse, je sais qu'il y a une fin. Et que la fin, c'est l'accouchement. Et en fait, assez bizarrement, j'ai zéro angoisse. Mais absolument pas. Par contre, j'étais totalement angoissée à l'idée de me dire « Oh, mais ça se trouve, j'arriverai pas à l'éduquer. Ça se trouve, j'arriverai pas à lui payer des études. Ça se trouve... » Voilà, j'étais déjà là, en fait. Je crois que c'est à 4 mois, on a un rendez-vous avec la sage-femme pour nous expliquer justement, on la rencontre. Et puis, est-ce que vous avez un projet d'accouchement? Et je me rappelle assez clairement avec mon mari, on était face à elle sur un petit canapé. Et on regardait. Et moi, j'ai regardé, on s'est regardé tous les deux. Et je fais... Moi, je n'ai pas de projet, en fait. Je veux juste accoucher, en fait. Juste qu'ils sortent. Et voilà. Et elle m'a dit non, mais plus particulièrement. Dans de bonnes conditions. Et en fait, je ne comprenais absolument pas de quoi elle me parlait. Elle m'a dit non, mais parce qu'effectivement, après, elle me dit, en fait, on peut accoucher dans une, dans une baignoire, si c'est possible. On peut accoucher de façon naturelle aussi, sans péridurale. Enfin, bref. Moi, pour moi, dans ma tête, tout était assez simple et clair. La péridurale existe, donc je vais la prendre. Et puis voilà. Donc, j'avais aucune inquiétude. Et 15 jours avant le terme, un matin, je me suis réveillée et j'ai perdu les os, donc dans mon lit. Et je me souviens m'être levée et mon mari était déjà debout. Et je vais le voir et je lui dis j'ai perdu les os, ça y est. Je vois qu'il commençait à s'affoler. Et en fait, la seule chose que j'ai dit, je lui ai dit, je crois que j'ai peur. Il m'a dit, c'est plus le moment. Il me dit, c'est fini. Je dis, ouais, c'est vrai. Mais c'était terminé. J'avais pas d'angoisse au sujet de me dire. Si ça se passe mal, et si ceci, et si cela. Moi, j'avais une confiance aveugle en me disant à l'hôpital, il y a la péridurale, tout ça, ils savent faire. Puis voilà. Donc, je suis allée à l'hôpital. Et en fait, donc j'ai fait le monitoring, toutes ces choses-là. Et en fait, j'avais pas de contraction. Donc, ils m'ont installée dans une chambre en me disant il va falloir marcher un peu dans l'hôpital, faites des tours, etc. Parce que pour démarrer le travail, en fait. Je connais l'hôpital très bien. J'ai fait des tours et des tours, monté des marches, etc. Et j'ai eu zéro contraction. Donc, je suis restée toute la première journée à l'hôpital, à me balader. tout en continuant à perdre les os. Donc je crois que j'avais dit au revoir à ma dignité, parce que je me suis baladée dans l'hôpital avec une grosse couche quand même. Voilà.
Mon premier poste, c'était là, à Colombes. On a toujours choisi de tourner, c'est-à-dire sur les différents postes. Les différents postes, ça veut dire le suivi de la grossesse en consultation maternité, où les patientes viennent tous les mois pour vérifier que tout se passe bien dans leur prise de sang, les échographies, vérifier que le bébé bouge bien et répondre à leurs questions pour les accompagner dans leur future parentalité. Il y a les cours de préparation à l'accouchement qui sont couplés aussi. Ensuite, on change, on a notre planning de fait à l'avance, on passe en général en salle de naissance. Donc moi, j'ai fait beaucoup de gardes de 24 heures qui ont été, à partir de 2008, modifiées en gardes de 12 heures. Actuellement, c'est comme ça. Et quand on est en salle d'accouchement, on est 4 maintenant. Moi, j'aime tout. J'ai toujours tout aimé. C'est vrai qu'il y a des collègues qui ne vont pas aimer du tout les suites de couches, qui vont préférer faire que des accouchements. On aime toutes beaucoup les accouchements quand même. C'est un peu une drogue aussi, hein. On adore ça en fait. Hein. Il y a toujours un peu de stress. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe mal. Voilà, il y a toujours un peu cette adrénaline qui est là. Et surtout, ce travail d'équipe en fait, avec les autres collègues, sages-femmes, infirmières, médecins, cette connivence. Comme ça, là, sans trop réfléchir, je me rappelle de ma première garde. 2 juillet 1990, il n'y avait pas d'accouchement, prenant ma garde à 10 heures, et ma collègue me dit « je monte voir mes copines en suite de couche, voilà, discuter pas longtemps, si tu as besoin, tu m'appelles à tel poste, il n'y a pas de souci. » Il n'y avait rien en salle, c'était salle vide comme on dit. Elle a à peine tourné les talons qu'il y a une dame qui arrive, qui ne parle pas français, grande multipare et qui accouche aux urgences. C'est-à-dire multipare qui a déjà accouché plusieurs fois. Elle est arrivée, elle a poussé, elle a accouché. Je savais rien, elle était à terme, pas à terme, pas de dossier. Voilà, toute seule, et j'ai fait l'accouchement dans le box des urgences. Voilà. C'était super. C'était la panique, mais en même temps, c'était super. Quand on commence une garde, on ne sait jamais comment ça va se passer. Il y a toujours jusqu'au dernier moment la petite incertitude de savoir si finalement tout va bien aller ou pas. Et ça peut vite se retourner une situation, même si tout est normal, même si jusqu'au bout on pense que ça va bien aller et que majoritairement ça se passe simplement, il peut y avoir un retournement de situation. Donc on a, c'est ça un petit peu cette adrénaline, ce stress qu'on a et qui pimente aussi un peu les choses. Voilà. Ça reste toujours un premier accouchement à chaque fois, une première histoire à chaque naissance.
Cher toi, chère sage-femme, chère accompagnatrice de nous, les futures mamans. Chaque grossesse, accouchement, fœtus, enfant est unique. Donc à chaque fois, pour toi, c'est une nouvelle histoire, un nouveau livre. J'ai été accompagnée par différentes sages-femmes pendant mes deux grossesses. Durant l'accouchement, après l'accouchement et une fois à la maison. J'ai rencontré des femmes à l'écoute, disponibles, fortes et apaisantes. Des femmes qui ont su m'aider, m'expliquer, écouter mes joies et mes souffrances. Des femmes inconnues ont partagé les deux plus grands moments de ma vie avec douceur, patience et sans jugement aucun. Pour tout, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été là, d'être à nos côtés, de prendre les choses à bras-le-corps avec nous, nos maris et nos bébés.
Un accouchement qui se passe bien, c'est normalement qu'il n'y a pas de césarienne ou de forceps ou de choses comme ça et qu'on n'a pas besoin d'appeler le médecin parce que normalement la sage-femme elle fait tout ce qui est simple. On a une maternité de niveau 3, c'est-à-dire avec de la réa, donc beaucoup de médicalisation possible. Mais on s'est toujours battu pour que ça reste une maternité de quartier avec des femmes qui accouchent selon leur envie, dans la mesure du possible. On a des tapis qu'on met au sol pour qu'elles fassent un peu de quatre pattes si elles veulent. Elles peuvent accoucher un peu dans des positions pas classiques, c'est-à-dire position gynéco, que ce soit dans le lit d'accouchement ou plutôt au sol ou plutôt sur le côté, ou de façon à avoir moins mal, faciliter la naissance, respecter un petit peu plus ce qu'elles ressentent. Et même si à la fin elle veut une péridurale ou si elle veut continuer, déjà tout ce temps-là, il est physiologique et on essaye de le respecter. Et la femme, elle vit son accouchement et on essaye de l'accompagner pour ça. Mais on a toujours essayé de rester des sages-femmes. Des sages-femmes, c'est vraiment des professionnels qui sont là pour faire un accouchement normal. Évidemment, si la médecine nous le permet, c'est-à-dire s'il n'y a pas de... Le bébé n'a pas un cœur qui ralentit parce qu'il ne supporte plus les dernières contractions, si le col se dilate bien, que la patiente supporte bien son travail, qu'elle n'a pas de difficultés de santé particulières.
Je m'appelle Éléonore, j'ai deux garçons, Arthur et Jules, qui ont 7 et 9 ans. Alors, j'ai eu deux grossesses plutôt géniales, pas de fatigue, pas de nausées. En revanche, j'ai eu plutôt deux accouchements compliqués et qui ont duré très, très longtemps. Depuis que je suis en âge d'avoir des enfants, je me suis toujours dit c'était une idée préconçue que j'arriverais à accoucher normalement, que j'aurais pas de césarienne, que j'aurais pas... Parce qu'on vous dit aussi que c'est comme ça que ça va se passer. Accoucher par voie basse, c'est de se dire que tout va bien, que votre bébé va bien, que vous, vous allez bien, et que c'est naturel et qu'il y a personne qui est en traumatisme. Arthur s'est présenté initialement en siège. J'ai tout tenté pour qu'il se retourne, pour le forcer à se retourner. C'était peut-être pas la meilleure chose au final. Donc j'ai subi une inversion. Et ça, c'est pareil, c'est une des choses les plus douloureuses que j'ai subies pendant avant l'accouchement. Une version, c'est en fait, vous avez un gynécologue obstétricien et deux personnes qui vont aider le bébé à se tourner. Mais pour ça, ils vont bloquer, ils vont appuyer sur votre ventre, mais pas appuyer comme vous quand on appelle son enfant en disant « Ah, coucou, comment tu vas ?» Là, ils vont vraiment chercher à prendre ses fesses et sa tête et ils vont le tourner, ils vont le pousser pour qu'il mette sa tête en bas, à travers le ventre. Et le jour de l'accouchement, je suis retombée sur ce gynéco-là. Mon col ne s'ouvrait pas et on a refait un contrôle au niveau du bébé. Et là, il s'avérait que moi, ça ne s'ouvrait pas et que ce n'était pas prêt de s'ouvrir malgré les hormones qu'il vous envoie pour essayer de déclencher et d'assouplir ce col qui ne s'est jamais ouvert. Et du coup... Tout d'un coup, il y a eu un branle-bas de combat, puisque en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un ralentissement trop important du rythme cardiaque du bébé. Et là, il a donné l'ordre « go, on y va ». Et là, vous ne savez plus ce qui se passe. En fait, c'est, vous voyez la peur de votre mari, vous ne comprenez pas, genre en mode « mais comment ça va se passer après ?» On vous dit toujours quand même, et là, je remercie vraiment les sages-femmes qui avaient dit à mon mari « portez une chemise », parce qu'il il se peut que le pot à pot, ça soit vous qui le fassiez. Et du coup, mon mari avait mis une chemise, et parce que ça permet d'ouvrir plus facilement, de poser le bébé contre son corps et de refermer. Enfin voilà, enfin, c'était... Et au final, c'est ce qui s'est passé. Et hop, ça part, et on vous met dans un petit bloc. Là, il fait super froid, vous grelottez, vous... Oh. Et en fait, j'entendais, parce qu'en fait, vous entendez tout, vous êtes anesthésié sur le bas, mais vous entendez tout et vous entendez que ça va bien se passer parce que l'anesthésiste, elle vous rassure. Alors vous dites quand même, c'est quand même bizarre. Et vous ne voyez rien, vous voyez juste le plafond et ça prend du temps et vous entendez un peu des merdes ou des faut qu'on se dépêche, faut qu'on se dépêche. Et à un moment, vous avez ces cris, donc vous vous dites, oh, ça y est, il est là. Et là, elle m'a montré mon fils à travers le champ, et là, masque pour faire dodo, et coupure, rideau. Et le lendemain, on se retrouve en salle de réveil, on n'a toujours pas notre enfant à côté, donc on l'a vu, quoi, même pas 10 secondes.
Alors, c'est vrai qu'en obstétrique, il y a toujours potentiellement une urgence. C'est vrai que de temps en temps, d'une minute à l'autre, le bébé, son cœur peut ralentir et pas bien supporter le travail et qu'il faille aller au bloc, par exemple une césarienne en urgence. Ça, c'est quand même le pire. On essaie de l'expliquer quand même aux patientes pour, en cours de préparation, à la naissance, pour qu'elles aient quand même intégré un peu les choses, que c'est pas ce qui va le plus souvent se passer, mais que si ça leur arrive et que c'est pas de leur faute ni de la nôtre et qu'on va essayer de faire au mieux, mais que c'est quand même le plus stressant parce qu'elles ont pas leur mot à dire, elles arrivent, elles pensent accoucher simplement, normalement, et puis d'une seconde à l'autre ça va plus, on commence à s'affairer, tout le monde rentre dans la chambre et elles se retrouvent en quelques 5, 10, 15 minutes au bloc avec un bébé qui est né et elles n'ont pas eu le temps de réaliser vraiment ce qui se passait, sauf d'avoir peur parce qu'elles voient bien que ça ne va pas et qu'on s'affole tous, hein, et qu'on agit en même temps qu'on fait. Donc, c'est des choses qui peuvent potentiellement tout le temps arriver. Et puis, il y a des femmes qui s'accrochent énormément à la voix basse, à l'accouchement normal par en bas, qui ne veulent pas de césarienne, pour différentes raisons, culturelles, personnelles, qui pensent que ce n'est pas un accouchement, que ce n'est pas comme ça qu'il faut que ça se passe, que ce n'est pas normal, qu'elles n'ont pas réussi, qu'elles n'ont pas mère, parce qu'elles n'ont pas accouché par en bas, alors que c'est pour nous faux, hein, mais après, c'est un ressenti, un vécu, ça qui doit se reprendre. Parfois, c'est difficile dans le vécu et ça doit se reprendre après.
Cher Robin, je voulais accoucher dans la salle nature, avec une baignoire pour me préparer et une liane qui m'aurait donné la liberté d'accoucher accroupie si le besoin s'en était fait sentir. Je voulais accoucher sans péridurale pour vivre pleinement l'expérience de ta naissance. Mais leur monitoring ambulatoire ne marchait pas, ce qui m'a empêché d'utiliser la baignoire et la liane, et je me suis fatiguée trop vite. Tu poussais pour sortir et mon col ne s'ouvrait plus, bloqué à 7 cm au lieu des 10 attendus. Ton cœur fatiguait. Et j'ai accepté une péridurale pour qu'on puisse souffler tous les deux. J'ai accepté de quitter la salle nature et par là même la vision rêvée de mon accouchement. Puis nous avons commencé à pousser. Je tiens à te dire à quel point, jusque-là et par la suite, la présence de ton père m'a été d'un grand secours et d'un grand réconfort. Mais sans ton papa, je n'aurais pas eu la même force. La sage-femme a aperçu ta petite tête qui arrivait et ton papa a pu te voir, encore à l'intérieur de moi. Puis j'ai poussé une dernière fois, et là, elle m'a dit « Vous voulez l'attraper ?» Et je t'ai vue entre mes jambes. Tu étais là, bien vivant et si petit. Après 8 mois à te porter, 10 heures à t'accoucher, j'étais devenue mère. Une semaine que tu es sortie de mon ventre. Mais on ne se quitte pas. Tu es sur moi au moment où je t'écris.
Pour illustrer un peu, effectivement, je vois une patiente que j'ai suivie qui a eu une deuxième grossesse très compliquée parce qu'elle s'est retrouvée toute seule pour cette deuxième grossesse. Donc un premier enfant. Ensuite, elle a eu une deuxième grossesse avec une interruption médicale de grossesse assez tardivement parce qu'il y avait une malformation alors que c'était un bébé qui était à 7-8 mois de grossesse, je pense. Un choix à faire, très, très douloureux, très compliqué. Le couple a décidé de faire cette interruption qu'on leur proposait, hein, médicale, à un terme assez tardif. Je crois que ça a été très difficile pour le couple. Et une fois qu'ils ont eu ce deuxième enfant, mais qui était en fait un troisième, le couple a explosé. Toute l'histoire du deuxième bébé est ressortie et ça n'a pas pu être assez parlé, ça n'a pas pu être assez accompagné. Toute la grossesse, elle s'est retrouvée seule en fait. Elle a essayé de tenir, et finalement elle a fini avec une dépression, elle était hospitalisée. Et ça lui a fait beaucoup de bien parce qu'elle a pu enfin parler, craquer. Elle a rebondi, elle est repartie sur cette troisième grossesse de façon plus saine après ce craquage important. Nous, on l'a beaucoup accompagnée pour ça. Et du coup, elle a accouché seule, en fait. Et cette patiente, elle nous l'a beaucoup rendue, en fait. Elle nous a dit que toute seule, elle n'aurait pas réussi. Son enfant, son couple, ce bébé, le décès de l'autre. Tout ça, c'était trop, en fait. Et il y avait un moment où il fallait que ça craque. Et en fait, on lui a permis de craquer et de passer à autre chose. Donc, rien que cette histoire-là, on a été à plusieurs professionnels, la psychologue, la psychiatre aussi.
elle est sortie radieuse avec son bébé dans les bras. Donc ça, c'est un parcours magnifique. Je pense qu'on l'a sauvée d'une certaine partie. Hein. Et l'enfant aussi. Des histoires comme ça, on en a plein. Des attentions tous les jours, des retours tous les jours. Quand même, ce qui nous tient, c'est la patience, c'est qu'on sait qu'on est utile, c'est qu'on sait qu'on fait quelque chose de très important pour les gens, qui nous porte aussi et qui nous permet de supporter toutes les difficultés de travailler à l'hôpital, de ne pas avoir de matériel, d'avoir des gardes compliquées, de ne pas avoir forcément de personnel, toutes les difficultés qu'on entend qui sont réelles. Hein. On a fait, moi, dans ma carrière, des grèves tout le temps, pour revaloriser la profession, pour essayer d'améliorer nos conditions de travail. Et on a les patientes qui sont là. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours voulu rester dans les soins. J'ai pas fait cadre, je suis pas sortie de l'hôpital. J'ai essayé de rester toujours à l'hôpital parce que on a toujours les patientes qui nous le rendent, en fait, et qui nous aident à continuer. Même quand c'est dur, même quand on est découragé, les patientes, elles sont là. On voit bien qu'elles ont besoin de nous et elles nous le disent. Donc, voilà. C'est grâce à elle, en fait, qu'on trouve la force, hein, le courage et la force de continuer. Après, le fait de faire que, quand on est en salle d'accouchement, de faire que ce côté émotionnel, l'accouchement et tout ça, c'est tellement d'émotions que des fois, on est content de rentrer chez soi et pff, voilà, c'est fini, on vide, on est content, ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, peu importe. On est quand même fatigué, épuisé, donc on est content aussi de rentrer, comme la patiente, elle est contente de monter ensuite de couche. Voilà, on vit les choses ensemble, on pousse avec les dames et tout. Hein.
Chère sage-femme, il est des moments dans la vie où la rencontre se fait de façon fulgurante et nécessaire. Ils ne sont pas nombreux, je crois, mais celui-ci en était un. Ce moment où l'on comprend que tout peut basculer. Ce moment où l'on comprend que mon futur, mon avenir est entre tes mains. Ce moment où plus rien ne compte à part lui, mon fils. Tu l'as accueilli alors que je ne pouvais pas le faire. C'est toi qui lui as donné son premier regard bienveillant, toi qui lui as redonné son premier souffle, toi qui as maintenu ce premier lien entre lui et moi. C'est toi qui m'as fait comprendre qu'une sage-femme, c'est aussi le fil qui nous rattache à la vie. Nous ne nous sommes jamais revus, et pourtant, je repense souvent à ce moment vécu ensemble sur le fil du rasoir. À toi, chère sage-femme, merci d'avoir su rendre ce moment merveilleux. Et puis bah, le lendemain matin, en revanche, à 10h, je suis descendue en salle de travail et on m'a donné de l'ocytocine. On m'a pas fait un déclenchement, en fait. C'est de l'ocytocine, donc c'est l'hormone qui fait mûrir ce qu'on appelle, enfin, ils disent faire mûrir le col. Et le fait de faire mûrir le col pour qu'il s'ouvre un peu peut déclencher des contractions. Et c'est beaucoup moins violent qu'un déclenchement en intraveineuse directe. Et ça a fonctionné. Et donc là, j'ai eu des contractions. Ouais. La sage-femme s'est rendu compte que mon fils s'était retourné. C'est-à-dire qu'il avait toujours la tête vers le bas, mais pour le coup, son dos était contre mon dos. Et en fait, la position physiologique pour accoucher, c'est quand il a son dos en haut, comme ça, pour sortir vers le ventre. Et donc là, voilà, il s'était retourné. Donc elle m'a dit, c'est absolument pas grave, en fait. L'interne va venir, parce qu'elle, elle a pas le droit de faire ça, mais l'interne va venir. Et puis elle va remonter, en fait, mettre sa main dans l'intérieur de l'utérus, remonter le bébé, et puis le retourner dans le bon sens. Sauf que, pour le coup, donc l'interne est arrivée, et au moment de faire ça, le retournement, j'ai tout le cordon ombilical qui est sorti de mon ventre. Et là, pour le coup, c'est une urgence absolue. En fait, c'est ce qui est assez incroyable, c'est de te dire déjà que tu dépends de ces gens qui sont autour de toi, et on dépend d'eux et de leur savoir-faire. Et heureusement, grand merci, ils savent très bien faire. Mais en plus de ça, c'est que tu comprends à quel point en fait la vie elle bascule en 2 secondes en fait. C'est que tu vois, t'as un accouchement parfait et d'un seul coup, ça vrille en 2 secondes. C'est pour ça que ça a été le branle-bas de combat en fait. Et donc, voilà, forcément, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème. Et j'ai vu l'interne, en fait. Et d'un seul coup, elle a la chair de poule partout, les pupilles qui se sont dilatées. Enfin, c'était incroyable. Et en plus, je lui dis, il y a un problème. Non. Puis elle disait, code 6. Et j'ai dit, non, mais il y a un problème. Enfin, je vois bien qu'il y a un problème. Et donc, là, d'un seul coup, en fait, j'ai eu 9 personnes, je sais pas, au moins 9 personnes autour de moi. On a commencé à me brancher partout, etc. Ils attendaient donc la chef de service qui devait venir, pour le coup, pour venir m'opérer et faire la césarienne. Et donc là, c'était assez compliqué parce que d'un seul coup, en fait, on se dit juste, mais il y a 2 secondes, on rigolait, en fait, et tout allait super bien. Et donc là, qu'est-ce qui c'est, pourquoi, en fait? Et donc là, elle m'explique qu'elle a la main, en fait, sur la tête de mon fils et que si elle enlève la main, bah, il meurt. Parce que à sa tête, il viendra écraser le cordon ombilical. Et donc, c'est fini. Contre mon col de l'utérus. Donc, c'est très difficile parce que déjà, j'étais prête à accoucher. Parce que j'étais à 10 cm. Donc, on me disait, bah, faut surtout pas pousser. Donc, ça, quand même, c'est plutôt compliqué. Et puis, de se dire, mais en fait, c'est mon propre corps mécaniquement qui pourrait tuer. Enfin, en fait, il y a un truc assez horrible. Et en fait, j'ai tenu. Et ils m'ont fait traverser toutes les salles, enfin le couloir de la salle de naissance pour aller en salle d'opération. Et à un moment, il a fallu changer de main, c'est-à-dire que l'interne, elle devait enlever sa main et que ce soit une sage-femme qui passe sa main. Et en fait, bon, bah, ça s'est fait. Et la sage-femme, la pauvre, quoi. Je lui ai dit que si elle se loupait, je la hanterais toute sa vie. Je lui ai dit des horreurs. Mais la pauvre, maintenant que j'y pense. Mais en fait, c'était horrible, quoi, de se dire que la vie de mon fils, elle est entre ses mains, quoi. Je la connais pas, quoi. Quand même, quoi. Et en fait, bon, évidemment, bah, ça s'est bien passé. Puis après, on est arrivé en salle. Et en salle, en fait, j'ai commencé à partir parce qu'ils m'ont injecté de la morphine. Et voilà. Et mon fils, ils ont ouvert directement. Et Tim est sorti. Et il n'a pas pleuré ni rien. Bah, pendant les 5 minutes de réanimation qu'il a eu. Et en fait, c'est là ma sage-femme qui s'occupait de moi tout du long m'a dit, elle est revenue me voir après en me disant, il respire. Et en fait, je sentais qu'il y a un truc qui n'allait pas, en fait. Enfin, pourquoi il n'était pas là? Pourquoi il n'a pas pleuré? Pourquoi ceci? Et en fait, dans la tête, ça va à 200 000, en fait. Et là, elle revient et elle me dit, votre fils va bien. Et là, je lui dis, je ne vous crois pas, en fait. Vous me dites ça parce que vous savez très bien que s'il lui arrive un truc, s'il n'est pas là, en fait, vous savez que je me laisse mourir. Je ne me réveillais pas, ça ne sert à rien. Et en fait, c'est assez incroyable parce que dans sa tête, en fait, à ce moment précis, tu sais que c'est possible, en fait. Tu sais que vraiment, tu fermes les yeux et c'est fini. Et pour rien au monde, je serais revenue, en fait. On ne peut pas imaginer ce que c'est que une seule seconde se dire je perds mon enfant, en fait. Tu donnerais tout, absolument tout, ta vie, clairement, pour que lui vive. Ou s'il devait partir, en fait, je serais partie avec pour pas qu'il soit seul. Et pour le coup, ils ont senti. Et donc, en fait, ils ont autorisé un truc qui n'était absolument pas possible. Normalement, c'est que mon mari est entré en jean basket dans la salle d'opération avec mon fils. Et c'était incroyable. C'était vraiment un moment incroyable parce que... Parce que pour le coup, bah, j'y étais arrivée, en fait. Et en fait, à partir de ce moment-là, ouais, tu te dis, bah, c'est bon, en fait. Je me suis dit, je suis capable. Et ma sage-femme, qui m'a accompagnée du début à la fin, il m'a resté plus longtemps, en fait, pour rester avec Tim, s'en occuper jusqu'au bout. Et elle est même revenue me voir le lendemain. On s'est revus plusieurs fois, en fait, tout au long de mon séjour à l'hôpital. Donc, il y a vraiment eu un lien qui s'est créé. Et donc, en fait, on est rentré à la maison avec mon mari. Clairement, la seule chose qu'on s'est dit, c'est dès qu'on l'entendait pleurer, on se disait « Putain, il pleure !» Mais c'est trop bien.
On sait très bien, dès qu'on démarre nos études, nos stages et tout ça, que la mort, elle est là, hein, en fait. Hein. On est là pour donner la vie. C'est vrai que c'est un choix. Et que bah, c'est la vie aussi de rencontrer la mort. Hein. On est à l'autre. Donc on apprend petit à petit avec au cours des stages, avec les autres professionnels à accompagner. Et puis parfois quand c'est trop difficile, et ben on s'arrange parce qu'on est à plusieurs dans l'équipe hein, de garde. Quand un bébé est mort et que on doit le peser, le mesurer, le présenter aux parents, la plupart du temps on se met à deux. Pour qu'ils rencontrent leur enfant, s'ils le veulent, évidemment, que ce passage-là de rencontrer son enfant qui ne vivra pas se fasse.
Bah, moi, j'ai eu une césarienne, j'ai eu ma poche de vessie qui a été abîmée, donc j'ai été recousue, j'avais une poche, et vous avez subi une anesthésie, et vous êtes faible, en fait. Et en fait, votre bébé pleure, et en fait, il n'y a pas eu de mise au sein, et vous vous retrouvez toute seule, vous ne savez pas forcément comment faire, et vous ne pouvez surtout pas vous lever pour le porter, parce que vous devez rester allongé dans votre lit, parce que vous avez cette césarienne qui est là, qui marque votre corps, en fait, et cette poche et cette vessie, quoi. Et puis du coup... Cette mise au sein qui n'a pas été faite tout de suite, bah c'est du retard qu'il faut rattraper. Entre guillemets, du retard, mais c'est quelque chose qui n'a jamais fonctionné chez moi. Et on s'en veut un peu en tant que maman, parce qu'on a l'impression que c'est facile, bah que c'est naturel en fait. C'est ce qu'on vous dit, on vous dit que ça se déclenche tout seul. Et sauf que là, cette montée de lait que je désirais le plus... Et bah, elle s'est jamais faite. Et là, ça a été un combat. Et en fait, ça devrait pas être un combat. Parce qu'il y a des allaitements qui se passent pas bien. et qui du coup nous rajoute aussi un peu un poids, parce que en fait Arthur a repoussé mon sein, et ça, pour une maman, c'est un peu dur à vivre. Comme on est là pour aussi donner la vie, on se dit qu'on est aussi là pour notre corps, il est là pour nourrir nos enfants. Sauf que quand ça vient pas, on se remet un peu en question en fait sur qu'est-ce qui déconne. Et là, je suis tombée sur des sages-femmes super qui ont compris que c'était vraiment important et qui ont tout donné, mais carrément. Sauf qu'à un moment, quand ça donne rien, faut se faire une raison, mais c'est dur en fait, parce que vous avez la césarienne que vous voulez pas, l'allaitement qui va pas. Et là, je pense qu'il y a cette personne, cette sage-femme qui s'est posée un soir, parce qu'à chaque fois, c'était dur en fait. Et plus l'enfant, entre guillemets, moins il se nourrit, plus il perd de poids, et s'il perd trop de poids, à un moment, ça devient galère, et c'est ce qui s'est passé en fait. Et vous avez cette sage-femme qui a eu les mots en disant, est-ce que on n'essayerait pas juste un biberon pour voir. Elle s'est dit, voilà, vous avez essayé beaucoup. On pourrait juste essayer ça. Ah avec du lait en poudre, très très bien, hein, en fait. Et ça a marché. Et du coup, on a vu un bébé serein, détendu. À l'époque, on commençait déjà à remettre l'allaitement au cœur de la maternité, au cœur de ce pourquoi, comme je l'ai dit, on est faite pour donner la vie et pour donner à manger. Et il y a 9 ans déjà pour Arthur, et avant, on n'en faisait pas tout un foin, en fait. Et puis, c'est revenu, parce que ça protège les bébés, parce que si, parce que là, parce que... Ouais. Alors oui, merci la société de nous faire poser un poids supplémentaire sur nos épaules, mais parfois ça marche pas. Parfois ça marche pas et parfois on n'en a pas envie, on a le droit de pas avoir envie. Tout ça, en cumulé, ça a été un peu dur à digérer quoi, pour le premier accouchement.
Ça reste quand même une histoire de femme, quand même, c'est vrai. Mais c'est aussi une histoire de couple. Et le père, il a beaucoup de place. Et petit à petit, au fur et à mesure de mes années d'exercice, je me suis rendu compte beaucoup de l'importance du père, que lui, il a beaucoup, beaucoup besoin d'être accompagné et qu'il ne l'est pas. Il l'est plus maintenant, mais au début de mes études, pas du tout présent, pas du tout conscient de la présence du père et de ses besoins à lui. Et on essaye le plus possible, en tout cas moi, de toujours inclure le père, qu'il soit présent en consultation, aux échographies, pour les cours de préparation à l'accouchement. Et du coup, ils posent ses propres questions. Des fois, ils sont très stressés. Et le fait qu'ils puissent poser leurs questions et qu'on puisse leur répondre, les femmes, elles sont soulagées aussi. On voit que les femmes se détendent parce que les conjoints sont plus détendus aussi. Ils savent où ils doivent amener leurs femmes, qu'est-ce qu'ils doivent surveiller. Parce que des fois, ils leur demandent « Mais t'es sûre ? T'as demandé ?» Tu vas savoir qu'il y a des contractions. Parce que les femmes, intuitivement, elles sentent que c'est grave ou pas grave, que c'est une petite contraction, même si elles n'en ont jamais eu, que c'est bon ou pas bon. Mais eux, des fois, ils doutent.
Je crois que oui, je suis traumatisée parce que aujourd'hui, j'arrive à vivre absolument normalement et sans problème. Et en revanche, à aucun moment, je pourrais m'imaginer avoir un deuxième enfant. Ça, c'est une évidence. Déjà parce que de base, on n'avait pas spécialement envie d'en avoir un deuxième. Mais clairement, je ne peux pas m'imaginer vivre une autre grossesse. En fait, c'est assez particulier parce que c'est mon propre corps, en fait, qui aurait pu le tuer. Donc en fait, je ne peux pas. Et je le vis absolument pas mal. J'ai fait le deuil de ça. J'ai mes amis autour de moi qui ont eu essayé leur deuxième enfant. Et je le vis très bien. Donc j'ai pas de soucis particuliers. Mais par contre, je sais que c'est quand même néanmoins un dommage collatéral de ça. C'est-à-dire que oui, j'ai absolument pas envie. Mais oui, je reste traumatisée parce que clairement, je vais en refaire des... Là, j'en en ai parlé aujourd'hui et clairement, je vais refaire un cauchemar cette nuit. Je le sais très bien. Les 6 premiers mois après, c'était tout le temps. Je revivais les scènes, en fait. Je revivais les scènes et surtout, je revivais le fait qu'il était vraiment mort, en fait. Et que, là, c'était vraiment arrivé.
Pour le deuxième, à part que ça a été long, j'ai beaucoup souffert après parce que j'ai eu une déchirure assez importante. c'est dur, quoi. On fait subir... Enfin, c'est votre corps qui subit ça. C'est vous, mais c'est votre... C'est gravé dans votre corps, c'est gravé dans votre mémoire ad vitam, en fait. Alors, on occulte plein de choses, parce qu'effectivement, et ça, on ne nous le dit pas assez, c'est que chaque femme a une force mentale qui est quand même juste dingue. C'est vous qui donnez la vie. Mais c'est aussi vous qui souffrez, c'est aussi vous qui pleurez, c'est aussi vous qui rigolez de douleur, parce que des fois, la douleur, ça fait mal, mais on en rigole. Mais c'est vraiment un tourbillon qui vous change pas complètement, mais qui pourrait vous faire devenir une super maman, une super femme, parce que de tout ce que vous avez subi, eh ben, on est juste exceptionnel, quoi. Mais c'est pas toujours ce beau jour paillette. Alors, ce beau jour paillette, il est parce que vous voyez votre bébé qui est dans vos bras et qui... Quand vous avez la chance d'avoir votre bébé. Parce qu'il y a aussi des mamans qui, effectivement, c'est pas le plus beau jour de leur vie. Chère femme qui va accoucher, tu vas vivre le plus beau, le plus dur et le plus intense des chamboulements. Un chamboulement corporel, hormonal, émotionnel, sentimental. Un chamboulement de tes idées préconçues, une mise à l'épreuve et un bouleversement de ta capacité de résistance. Sache que tu vas y arriver, que tu n'es pas seule et qu'une colère, des cris, des pleurs ne sont au final qu'une petite goutte d'eau dans l'océan d'amour qui va te submerger.
Quelque part où tu préfères.
Coucou.
J'ai entendu ta voix.
Je m'étais bien cachée.
Vous venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui propose d'ouvrir un nouveau dialogue. Cet épisode a été réalisé dans le cadre de Présente, un projet porté par 6 associations de la ville de Colombes dans les Hauts-de-Seine. Le 25 septembre dernier, des dizaines de femmes de la ville ont envahi le Panthéon à Paris, en chantant, en dansant et en faisant résonner leur voix. Si vous voulez connaître le récit de cette journée, vous pouvez vous abonner à notre newsletter. Vous trouverez le lien dans le texte de cet épisode. À bientôt.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.